Bonjour frères et sœurs, je vous invite s'il vous plaît à lire dans la parole de Dieu. On est avec Néhémie, psaume 19, du verset 8. Donc la loi de l'Éternel est parfaite, c'est-à-dire sa parole. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, tout est synonyme en parlant de la parole de Dieu. Est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes. Plus précieuses que l'or même que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est averti pour qu'il les observe, l'avantage est grand. Qui connaît ses fautes involontaires, pardonne-moi, c'est ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent des péchés graves. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Amen. La parole de Dieu est bonne. Il éclaire nos yeux. Cette divine parole que nous venons justement de chanter, nous raconte l'histoire de quoi? L'histoire du salut, c'est-à-dire la réconciliation de l'homme avec Dieu par la foi en qui? En Jésus-Christ. Nous étudions le livre de Néhémie depuis quelques... On est rendu au chapitre 3. Donc nous étudions le livre de Néhémie et qui se situe environ à peu près à 400 ans avant la venue de notre Sauveur, avant la venue du Messie en réalité. Donc, pour faire juste une arrière, pour reculer un peu dans le temps, le peuple d'Israël est de retour de l'exil à Babylone. On l'a déjà étudié dans le chapitre 1, et même en Esdras aussi. On voit que le peuple est de retour après l'exil. Jérusalem est détruite, le temple et les murailles aussi. Mais Dieu leur a permis de rebâtir le temple. Et ce que nous avons étudié dans le livre d'Esdras. Mais quelques temps après, Néhémie, ce serviteur de Dieu, comme on l'a vu il y a deux semaines avec l'enseignement, ce serviteur de Dieu qui se trouve encore à Suse, c'est-à-dire la capitale de l'Empire perse à ce moment-là, a appris que les murs de Jérusalem sont tous détruits, les portes aussi. Et le peuple est triste, il est malheureux, il est éprouvé. Donc, Néhémie a dans son cœur le désir d'aider ses frères et rebâtir les murs. Nous avons vu la semaine passée dans le chapitre 2 que Dieu confirme ce bon vouloir de Néhémie et pourvoit tout le nécessaire à Néhémie pour la reconstruction, pour aider ses frères. Donc Dieu confirme sa vocation, son appel de reconstruire les murailles et les portes de Jérusalem. Mais savez-vous, j'essaie d'imaginer un peu dans quel état était Jérusalem. Il a été brûlé il y a quelques années auparavant. Et le peuple a été en exil à peu près 70 ans. Imaginez l'état des murailles à cette époque-là. Et il n'était pas juste détruite, là. Il était brûlé aussi, la ville avait été brûlée. Et les pierres, j'imagine, qui sont vraiment plus enfoncées, 70 ans environ, ça prend du temps, donc c'est plus dur la reconstruction. Donc le travail était assez considérable. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous savez, les murailles, on rencontre dans ces temps-là, les murailles étaient à peu près 10 mètres de hauteur et à peu près 3 mètres d'épaisseur. Donc imaginez l'ampleur des dégâts et imaginez l'ampleur du travail qu'il fallait faire. Et donc c'est sûr que Néhémie ne pourrait pas le faire tout seul. Et même s'il aurait voulu, ça aurait été très long. Mais après avoir bien étudié le terrain, il partage avec ses frères son désir et il répond favorablement. Nous voyons rapidement la progression de ces deux premiers chapitres qu'on a étudiés, si on peut dire, du « je » au « nous ». Donc ça change en ce qui concerne l'appel de Néhémie. On voit je vous invite à ouvrir Néhémie, on peut aller dans le chapitre 1 peut-être rapidement et voir, parce que c'était juste trois chapitres, on est rendu, donc vous allez juste reculer un petit peu, quelques pages. En 4, il dit, lorsque j'ai entendu ces paroles, je m'assis et je pleurais. Et pendant plusieurs jours, j'ai pris le deuil je jeûnais, je priais tout dans... Il faisait tout seul ça, Néhémie devant le Dieu des cieux. Et je dis dans le verset 5, chapitre 1, et je dis, « Ah, éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. » Verset 6, chapitre 1, « Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les Israélites. » Et dans le chapitre 2, il dit dans le verset 11, « J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. » Et dans le verset 18 du chapitre 2, il dit, « Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. » Ils dirent, et là on voit que ça change, hein? Qui a dit ça? Qui a dit, « Levons-nous et bâtissons ?» Néhémie, c'est vraiment qui? Le peuple. Il dit, « Ils dirent, levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution, dans cette bonne décision. Donc, levons-nous et bâtissons. En réalité, ce que nous allons lire, et le message de ce matin, c'est vraiment ça. Là. Levons-nous et bâtissons. Mais non, nous allons voir, nous allons étudier ce chapitre 3. Et nous voyons l'exécution de la résolution prise par le peuple. C'est-à-dire, de façon pratique, ils ont dit, levons-nous. Et puis après, quelques années plus tard, ils ont commencé à construire. Non, tout de suite après, ils ont commencé les travaux de la reconstruction. Donc, je vous invite juste à lire. On passe à mode diaporama. Il y a un diaporama, je veux juste vous montrer quel était l'état un peu des... OK, comment Jérusalem, vous voyez le temple, vous voyez ce carré-là? Le temple, en haut, c'est la partie nord. Et le temple est à l'est, vous voyez? Et la partie sud, vers la pointe en bas, c'est vraiment, c'est là la cité de David, située la ville de Jérusalem. La prochaine diapositive nous montre un peu la même chose, mais d'une façon panoramique. Là, il y a les maisons, le temple, vous voyez en haut, c'est le nord-est, puis la partie en bas, c'est le sud, la partie moins large. Et vous voyez les murailles qui sont là. C'est ça les murailles qui ont été reconstruites par Néhémie. Par contre, qui a lu déjà Néhémie 3? Et je vous invite déjà à le faire demain. Dimanche prochain, qu'est-ce qu'on va étudier? La fin du chapitre 3. Parce qu'aujourd'hui, on va juste étudier au verset 32. Mais aussi le début du chapitre 4. Donc, je vous invite à le lire. C'est bon, quand on vient, et on sait qu'on est en train d'étudier un livre, c'est bon de le lire à l'avance. Et qui a lu déjà, vous avez dit, le chapitre 3? C'est un peu difficile. Hein? Il y a des noms ici et là. Et donc, des fois, on se perd dans le texte. Mais peut-être quelque chose qui peut nous aider ce matin pour nous trouver un peu dans le texte, c'est la prochaine diapositive. C'est ça. Donc, Néhémie nous raconte comment il construit, comment il s'est pris pour construire, reconstruire les murailles. Vous voyez le temple, et plus bas, vous voyez la porte des brebis. Vous voyez bien, là, en bas du temple, à côté droite, dans vos écrans. Ça, c'est le nord-est. Donc, il commence par la porte des brebis. La prochaine porte, c'est quoi? Vous voyez bien, pour ceux qui ont des bons yeux, la porte des... Oh, c'est dur à lire, hein? Porte des poissons. La vieille porte plus haut, et puis là, il fait le tour. C'est ce qu'il fait, Néhémie, en réalité, dans ce passage-là, chapitre 3. Donc, vous allez pouvoir vous trouver, et tous les noms qui sont là, c'est les noms qui sont mentionnés et pour le travail de la reconstruction de la muraille. Donc, on peut laisser peut-être, pendant que je lis le chapitre 3, ce diaporama, et après, on peut l'enlever. C'est bon, donc, lisons, s'il vous plaît. Néhémie 3, 1 à 32. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en fixèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour des Méa jusqu'à la tour des Ananéel. À côté de lui bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la charpentèrent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillaient les répartitions aux réparations, Meremoth, fils d'Uri, fils de Akot, à côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshézabel, à côté d'eux travailla Tzadok, fils de Bana. À côté d'eux travaillèrent les Tekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Yoyada, fils de Paséa, et Meshulam, fils de Bezodia, réparèrent la vieille porte. Ils la charpentèrent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Melatia, le Gabaonite, Yadon, le Meronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah ressortissant au siège du gouverneur de la province de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Araya, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils achevèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla Rephaïa, fils de Our, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Yedaya, fils de Rumaf. Et à côté de lui travailla Atouk, fils de Hashabnia. Un autre secteur dans la muraille et le tour de four furent réparés par Malkiya, fils de Harim, et par Ashub, fils de Pahat Moab. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalum, fils de Aloek, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanoun et les habitants de Zanoa réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent des plus 1000 coudées de la muraille jusqu'à la porte du fumier, à peu près 300 mètres. Malkiya, fils de Rekab, chef du district de Beth à Kerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en fixa les battants, les verrous et les barres. Shalum, fils de Kolosé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en fixa les battants, les verrous et les barres. Il fit des plus la muraille de l'étang, de l'émissaire près du jardin du roi jusqu'aux marches qui descendent de la cité de David. Derrière lui, Néhémie, c'est pas le même Néhémie, fils de Hasbouk, chef de la moitié du district de Beth Tsour, travailla aux réparations jusqu'à vis-à-vis du tombeau de David, jusqu'à l'étang artificiel et jusqu'à la maison des héros. Derrière lui, travaillèrent les Lévites, Réhum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Hashabia, chef de la moitié du district de Keïla. Derrière lui travaillèrent leurs frères Bavaï, fils de Enadad, chef de la moitié du district de Keïla. Et à côté de lui, Ezer, fils de Josué, chef de Mitzpah, réparant un autre secteur vis-à-vis de la montée de l'arsenal de l'encoignure. Derrière lui, Baruc, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre partie, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Derrière lui, Meremoth, fils d'Uri, fils d'Akot, répara un autre secteur depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Derrière lui travaillèrent les sacrificateurs habitants de la plaine. Derrière eux, Benjamin et Ashub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Derrière eux, Azaria, fils de Maaseïa, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Derrière lui, Binoui, fils d'Enadad, répara un autre secteur depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'encoignure et jusqu'à l'angle. Palal, fils de Uzaï, travailla vis-à-vis de l'encoignure et de la tour supérieure qui fait saillie depuis la maison du roi près de la cour de la prison. Derrière lui travailla Pedaïa, fils de Paréoc. Les Nétiniens demeurant sur l'Ophel travaillèrent jusqu'à vis-à-vis de la porte des eaux, à l'est de la tour en saillie. Derrière eux, les Tekoïtes réparèrent un autre secteur vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de l'Ophel. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Derrière eux, Tzadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Derrière lui travailla Shemaïa, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Derrière eux, Anania, fils de Shelemia, et Hanoun, le sixième fils de Salaf, réparèrent un autre secteur de la muraille. Derrière eux, Meshulam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Derrière lui, Malkiya, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des commerçants vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute de l'angle. Les orfèvres et les commerçants travaillèrent entre la chambre haute de l'angle et la porte de brebis. Toute une lecture. Je me suis pratiqué beaucoup, mais je pense que j'ai fait quand même quelques erreurs. C'est des noms difficiles à prononcer et c'est difficile à se trouver, surtout à ce qui concerne aussi les endroits, des endroits qui ont, et avec le temps, disparu aussi à l'époque de Jésus. Et peut-être on voit la porte des brebis qui est mentionnée dans le chapitre 5 des Jean et de l'Évangile selon Jean. Mais d'autres endroits sont difficiles à repérer, mais les portes, en fait, sont quand même, il y en a qui ont resté jusqu'au temps de Jésus. Donc, voyez le tour qu'il fait Néhémie dans le chapitre 3 pour nous expliquer tout le travail qui allait se faire. C'est quand même, si on regarde ce graphique, on peut le retirer déjà. Et merci pour la diapositive. Si on le regarde, on peut voir vraiment de façon logique comment Néhémie s'est pris pour reconstruire les murailles. Donc, en le voyant comme ça, avec ce graphique-là, ce chapitre relativement facile à analyser, parce que chaque paragraphe est construit autour des portes de la ville. On mentionne à peu près 9 à 10 portes. Cependant, le message de ce chapitre n'est pas aussi facile peut-être à discerner. Comment l'appliquer? De nombreux auteurs ont tenté de tirer des leçons spirituelles de la signification véritable des images de la porte. Je ne sais pas, ils ont essayé de trouver qu'est-ce que ça veut dire, la porte de quoi, là? On a vu quelle porte vous a un peu attiré votre attention. La porte de chevaux, la porte de brebis aussi. Donc, il y en a qui ont essayé de trouver des enseignements par rapport à cette porte-là, mais c'est difficile. D'autres, davantage, se sont penchés pour les noms des gens. Waouh! C'est quand même encore difficile à cause des noms des gens, comme vous le savez. Les noms hébreux ont quand même une signification, mais malheureusement, nous ne savons pas assez sur la signification des noms et du caractère des personnes qui ont travaillé pour ce projet-là. À raison de cette incertitude, si on peut dire, la plupart des commentateurs et modernes ne s'attachent qu'aux caractéristiques physiques de la ville, et d'autres préfèrent ignorer complètement le chapitre. Et le problème que nous rencontrons en étudiant ce chapitre avec cette longue liste de noms, que des fois c'est un peu difficile même à prononcer. Et ce problème-là, c'est que nous, des fois, nous sommes tentés. Vous êtes déjà tentés quand vous êtes en train de lire, mettons, Lévitique, nombre de passer des pages. Parce que oui, parce qu'il y a tellement de généalogies des fois. Mais ils sont là pour quelque chose. Et c'est la parole de Dieu. Et donc, nous pouvons, de façon tranquille, pouvoir passer du temps à le lire et nous allons trouver quand même de l'enseignement. Et donc, d'autres préfèrent peut-être passer au chapitre 4. Pourtant, ce chapitre est l'un des plus importants de ce livre, okay? Le chapitre 3, parce qu'il nous montre comment Néhémie a réparti le travail pour reconstruire ces murailles qui sont détruites. Une tâche aussi énorme que la construction de la muraille de Jérusalem demandait un grand effort de quoi? D'organisation. On le voit, comment il a tout organisé. Et c'est Néhémie. Rappelons-nous que Néhémie a fait le tour de la ville pendant combien de jours? 3 jours. Pendant 3 jours, on l'a vu dans le chapitre 1, chapitre 2, il me semble. Pendant 3 jours. Donc, c'est Néhémie, n'est pas seulement les chansons, c'est ça, les chansons du roi. En espagnol, on dit copero. Copero, ça a rapport avec la coupe. Donc, il travaillait comme chanson du roi. Mais c'est Néhémie, on dirait qu'il y avait un ingénieur peut-être, même un architecte, même un chef d'armée, on va le voir après dans le chapitre 4, qui va être confronté à s'organiser pour même se défendre de ces gens qui essayent de comment on appelle ça là, de obstruire la reconstruction de la muraille. Donc on voit ces Néhémie qui s'y prend vraiment de façon détaillée et de façon bien organisée. En fait, ces paroles, c'est cette organisation que on voit dans Néhémie nous rappelle justement les paroles de Jésus. Donc, car, et quand il dit dans Luc 14, 28 à 30, il dit, « Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi à la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable de l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se moqueront et ne disent, « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas été capable de finir ça ou de l'achever. » Donc, on voit vraiment que Néhémie fait ça. Il calcule tout. Même, vous allez voir à la fin du chapitre 3 que Sambalat et ses copains, là, ils se moquent. Ils disent, même mon renard passe, il va détruire votre muraille. Là. Donc, mais Néhémie a bien calculé, a bien préparé son affaire, comme on dit en bon québécois. Donc, plusieurs aspects de sa réparation des tâches sont évidents. Donc, premièrement, les sacrificateurs furent les premiers à commencer. Pas nécessairement les premiers, mais la façon que Néhémie nous raconte ça dans le chapitre 3, on pense que tout le monde a commencé en même temps. Mais Néhémie, dans son livre, dans ses livres, nous dit, il prend les sacrificateurs au début pour nous raconter, pour faire le tour de son plan. Il dit, les sacrificateurs furent les premiers à commencer l'ouvrage en réparant la porte des brebis. Situé à l'extrémité nord-est de la ville. Et ces portes étaient probablement car le brebis destiné à être sacrifié sur l'autel passait par cette porte-là. Donc les commerçants, ils pouvaient passer par cette porte-là pour les sacrifices, parce qu'il est juste à côté du temple. Donc les portes sont mentionnées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, c'est là qu'il nous montre Néhémie et tout son plan. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Il fixa à chacun un endroit spécifique où travailler. Cette coordination se voit clairement dans les expressions que nous avons entendues, telles que « à côté d'eux ». Vous vous rappelez qu'on a lu ça? Ça se répète plusieurs fois « à côté de lui », tous ensemble. « Derrière lui », ça c'est bon, ça « derrière lui ». « Derrière eux » même, il parle d'un groupe. Peut-être qu'il y avait des gens qui travaillaient dans une zone tout seul, mais tout près d'une autre personne. Ces expressions-là apparaissent dans ces 32 chapitres au moins 30 fois. Donc, ça nous donne déjà un indice que tout le peuple était comme un seul homme, comme on lit plus tard. À quelques reprises, nous voyons aussi que les tâches furent confiées de façon à ce que chacun soit à proximité de sa maison. Vous voyez? Nous avons lu ça dans le verset 21, 23, 24, 26, 28 à 30 aussi, qu'il y avait des gens qui étaient tout près de leur maison. Et la raison pourquoi ils étaient sont évidentes, parce que premièrement, les gens qui étaient assignés la portion de la muraille tout près de leur demeure s'engageaient peut-être plus personnellement à leur travail et seraient par conséquence plus fortement motivés à travailler à côté de leur maison. Il ne faut pas s'imaginer non plus que, bon, il y en a qui mettaient des roches en couleur blanche, puis l'autre côté en rouge. Je ne pense pas qu'ils... Mais ils faisaient tous le même travail, mais ils le faisaient à côté de leur maison. C'était plus facile comme accès. Il ne fallait pas se déplacer. C'était un avantage aussi, dans une autre partie de la ville, pour aller travailler ailleurs. Et il aurait perdu beaucoup de temps pour le déplacement. Troisièmement, en cas d'attaque, et on va le voir dans le prochain chapitre, il pourrait vraiment quitter son poste et aller pour rester et protéger leur famille. Donc Néhémie savait où chaque personne ou quel groupe allait travailler. Il désigna des hommes comme on a lu des Tekoa, des Gabaon, des Jéricho, d'autres villes, des Mitzpah et encore d'autres, probablement pour travailler dans des parties de la muraille où il ne se trouvait pas beaucoup d'habitants. Donc c'est pour ça qu'il s'est pris de cette façon pour que la muraille puisse être rétablie et reconstruite. Des hommes venus des endroits différents, appartenant à des milieux différents, ont travaillé ensemble. Ils ont travaillé ensemble dans la construction de cette grande muraille. Et Néhémie, qui mentionne au début? Si vous avez suivi la lecture, dans le verset 1, la porte des brebis, ça commence, et si ça finit aussi par la porte des brebis, il mentionne qui? Eliashib, c'est qui lui? Le souverain sacrificateur. Et aussi, il mentionne plus tard d'autres sacrificateurs, dont il y a des ouvriers aussi, et dont la profession est mentionnée comme des orfèvres. Il y a aussi des parfumeurs qu'on a lu. Il y a des chefs de district, et il y a aussi des lévites, des marchands, même les filles d'un homme. Les filles aussi ont travaillé pour cette construction. Les filles, je pense que des Shalom, qui ont travaillé pour la reconstruction de cette muraille. Savez-vous que les sacrificateurs faisaient leur travail de pouvoir faire des sacrifices? C'est vrai que c'était des lévites, mais les lévites aussi travaillaient, et ils faisaient des travaux dans le temple, des travaux peut-être physiques, mais pas les sacrificateurs. Mais ils sont aussi mentionnés comme quoi chacun a mis la main à la pâte, comme on dit. C'est ça? Donc, chacun a travaillé pour la reconstruction de cette muraille. Une chose, un aspect qui revient dans tout ce texte-là, c'est tous ensemble, avec un cœur bien disposé. À part, peut-être, qu'on va mentionner tantôt un groupe là, mais tous ensemble, cœur bien disposé. Nous avons lu dans le chapitre 2:18 qu'ils dirent, eux-mêmes répondent, le peuple dit, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Nous venons aussi de lire dans le verset 20 comment Baruch répara, il dit, avec ardeur. Il dit, répara avec ardeur, ou aux ailes peut-être, la partie de la muraille. Peut-être parce qu'il était à côté de lui, ou peut-être parce qu'il fallait travailler avec ardeur. C'était peut-être une partie de la muraille très difficile. Donc on voit que c'est Baruch travaille avec ardeur. Nous lisons aussi dans le chapitre 4, 1, plus tard, que le peuple prit à cœur ce travail. Le peuple a pris à cœur ce travail. Cette construction de la muraille contribua donc à l'unité du peuple, à créer des liens. Plus tard, dans le chapitre 8, nous voyons que ce même peuple s'assembla, il dit, comme un seul homme. C'est là que c'est l'expression que Néhémie utilise dans le chapitre, au début du chapitre 8. Il dit, le peuple s'assembla comme un seul homme, et il demanda la lecture de la loi. Il demande, et c'est là qu'il rentre Esdras pour enseigner la loi. Donc, ces peuples unis, ça a été progressif, le fait que le peuple a commencé à être uni, comme un seul homme, on dit. Un nouveau peuple s'établit à Jérusalem, après l'exil. Le temple est déjà reconstruit, et les murailles sont en train de l'être. Donc, cela nous rappelle le premier brique, ou on pourrait parler le premier pierre de l'Église, qui voit le jour dans quoi? Dans le livre des Actes. Et le jour de la Pentecôte, vous vous rappelez? Vous avez déjà lu ça? On a déjà étudié ça. Donc, cela nous rappelle aussi les paroles de Jésus quand il dit, « Et moi, je t'ai dit que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Donc, on voit aussi, et ça nous fait penser, ça nous rappelle ces paroles de Jésus. Très tôt dans l'histoire de l'Église, nous avons vu des gens qui nuisent à la croissance de cette Église. Très tôt, là, dans le premier chapitre d'Actes, on peut voir, comme dans les cas de vous rappeler, d'Ananias et Saphira, et comme on l'a vu aussi dans ces cas, dans Néhémie 3:5, que les Tekoïtes, ils disent, refusèrent de travailler pour la construction, malheureusement. Souvent, et vous le remarquez, je sais que vous l'avez déjà lu aussi, souvent dans le Nouveau Testament, les chrétiens qui forment l'Église sont associés à des termes qui parlent d'une construction, des termes de construction. Donc, sûrement vous avez lu déjà en Corinthiens 3:9 qui dit « Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » À qui il parle? Aux Corinthiens. Il dit « Vous, Corinthiens, vous, l'Église locale, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. » Et nous avons en effet, quand il dit dans 2 Corinthiens 5, il dit, nous avons en effet que si notre demeure terrestre qui ne tente est détruite, nous avons dans les cieux un quoi? Un édifice qui est à l'ouvrage de Dieu. Nous avons dans les cieux un édifice qui est à l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle, ça nous fait penser à Jean 14 quand Jésus dit qu'il a une demeure pour nous. une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes, dans 2 Corinthiens 5. Mais Dieu construit son Église par nous, par les hommes, par les croyants. Vous avez été édifiés, dit Éphésiens 2, 20 à 22. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant quoi? La pierre de l'angle. Il dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation en esprit. Vous aussi, vous êtes édifiés, et ce mot-là qu'on voit dans Néhémie, ensemble. Et vous-même, encore, 1 Pierre 2, 5, peut-être d'une façon plus claire, puisqu'on est, on est en train de parler, et vous-même, comme des pierres vivantes, comme des pierres vivantes, il parle à nous, comme chrétiens, vous les chrétiens, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il dit, vous-même comme des pierres vivantes. L'Église est formée par plusieurs pierres. Des petites pierres, des petites pierres blanches, des petites pierres un peu plus foncées, des grosses pierres, il y a des gens qui me regardent, des moyennes, des pierres moyennes. On est un édifice pour Dieu, qui est construit pour la gloire de Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul aussi nous exhorte à conserver l'unité par l'Esprit et par le lien de la paix dans Éphésiens. Il mentionne aussi que Dieu a donné les uns comme apôtres, il dit, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. C'est là en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Le service dans l'Église contribue aussi à l'unité de l'Église. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi malheureusement, je n'ai pas participé quand vous avez acheté ce bâtiment, ce beau bâtiment, il y a 20 ans. Attendez, 2021? 20 ans. Je suis arrivé ici en 2001. Je me suis assis quelque part là. On s'est assis avec ma famille. C'était à peu près le mois d'avril. C'est le premier jour ici, un nouveau bâtiment. Mais je crois que ce bâtiment a changé beaucoup depuis qu'on l'a acheté. Je pense que vous avez fait des modifications. Encore là, je n'ai jamais vu aussi, j'étais peut-être même pas né quand on a construit, je pense, le bâtiment sur Rosemont. Oui, pardon. C'est à cause de... À Rosemont, quand vous avez construit le bâtiment. J'ai déjà été témoin d'une construction, d'une réfaction d'un bâtiment. Et je suis né dans une église hispanophone. Et puis, quelques années après ma conversion, on a acheté un nouveau bâtiment. C'était une discothèque ici sur la rue Saint-Grégoire et Papineau. Et donc, je m'en rappelle très bien comment on construisait. On a fait tout. Il y a un frère qui a fait tout le gyproc et tout ça, il a tout modifié. On a fait les bancs, nous-mêmes on a fait les bancs, qui sont jusqu'à aujourd'hui là. Et ça me rappelle des souvenirs, et c'est des bons souvenirs. Ça a créé des liens, ça a tissé des liens entre les chrétiens. Oui, on est allé travailler fort, physiquement. Tout le monde s'est impliqué, toutes les familles se sont impliquées, mais ça a servi pour créer des liens dans l'Église. Donc, le service dans l'Église contribue aussi à l'unité. L'apôtre Pierre nous dit que comme des bons dispensateurs, il dit, des diverses grâces de Dieu que chacun de nous met en service, au service des autres, le don qu'il a reçu. Le service, travailler, voire même travailler, ça édifie, ça nous édifie. Et il dit que nous mettons nos dons au service de nos frères et de nos sœurs. Juste des fois, quand je vois aussi au comptoir alimentaire et des frères et sœurs qui sont impliqués, qui travaillent fort, c'est bon de voir ce travail-là. Et ça crée des liens, ça nous unit. On voit vraiment qu'on est tous concentrés pour ce travail-là. Oui, pour pouvoir des aliments aux gens, et nous prions pour que ces gens puissent être affectés par le témoignage de l'Évangile, notre témoignage, mais aussi, ça, c'est quelque chose, voir tous ensemble en train de servir et se servir les uns les autres, une façon aussi de grandir dans notre foi. Nous lisons plus loin dans Néhémie 6, 15, que la muraille fut achevée dans combien? C'est quand même rapide. Et voir tout ça, là, c'est... Et on voit dans ce chapitre 3, là, on voit des noms, des responsables, je pense, et des groupes même des gens. Mais je pense que le nombre était quand même assez important, assez grand. Tout le monde, je pense, que s'est mis au travail, parce qu'ils ont fini la muraille dans Néhémie 6:15 en 52 jours. Ça veut dire presque moins que 2 mois. Imaginez ça, moins que 2 mois. C'est rapide pour monter toute une muraille qui était presque toute détruite là. Oui, c'est vrai qu'on voit pas toutes les tours ou toutes les portes, parce qu'il y en a qui ont survécu, mais la majorité de la ville a été détruite. On voit que 52 jours, ça a pris. On aurait besoin de ces gens-là pour réparer toutes les rues de Montréal. Hein. Peut-être on finira ça beaucoup plus rapidement, parce qu'on voit des constructions que ça dure une éternité. Mais imaginez ça, 52 jours pour finir ces travaux. Et tous ensemble, Jérusalem est rebâtie avec son temple, et aussi ces murailles. À la fin du chapitre 3, on voit qu'ils sont arrivés à peu près à la moitié de la muraille à cause de l'opposition que le peuple a vécue. On va l'étudier la semaine prochaine. Mais en général, la signification d'une muraille dans la Bible est celle des protections militaires, la sécurité. On lit dans Zacharie 2:9, c'est vraiment dans le temps où les gens sont en train de construire cette muraille. Il dit, « Moi, l'Éternel, je serai pour elle comme une muraille de feu tout autour d'elle, l'Éternel déclare, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » En raison de leur unité dans la protection d'une ville, les murailles étaient aussi le signe visible du succès d'une ville, et de sa renommée aussi. Les murailles étaient une source aussi de fierté, de beauté même. Et sans elles, sans les murailles, une ville, on ne considérait pas dans cette époque-là, on la considérait comme incomplète. Donc, mais les murailles aussi symbolisent aussi le salut des dieux. Dans Ésaïe, nous lisons dans Ésaïe 26, 1, « En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. » Nous avons une ville forte, il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Donc ces murailles-là sont symboles aussi du salut, le salut de la protection de Dieu. La Jérusalem céleste, frères et sœurs, dans notre cas, cette Jérusalem céleste qu'on lit dans le Nouveau Testament, cette cité céleste est en train d'être bâtie comme on l'a vu la semaine passée. Pour nous, notre cité est dans les cieux. Comme dit Philippiens 3, 20, pour nous, notre cité est dans les cieux. Dieu l'a bâtie pour le travail, par le travail de l'Église. Car nous sommes qui? Nous sommes ouvriers avec Dieu. On est en train de bâtir cette cité céleste. On est en train de bâtir par notre service, servir les uns les autres. En quelque sorte, on est en construction. Encore, et des fois, on a des brèches dans nos murailles et on doit les réparer. On doit travailler pour réparer ces murailles, et faites par l'ennemi, des fois. Et on vient de passer, on est en train de passer cette période de pandémie aussi, et l'Église est affectée. Peut-être dans les Églises, il y a des idéologies qui se sont installées. Et donc, nous, comme tout peuple uni, on doit réparer ça. Et par notre service. Justement, aujourd'hui, nous allons avoir une réunion de personnel. Ce n'était pas voulu, on n'a pas arrangé Néhémie 3 pour prêcher là-dessus, mais c'est tombé comme ça. Et puis, nous avons justement de parler des services et des ministères à l'Église. Et nous allons voter aujourd'hui, après, à 12 heures cet après-midi, pour tous les travaux, les ministères à l'Église. Donc, Dieu bâtit son Église à travers nous. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Quel privilège! Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et Dieu est patient hein, dans l'œuvre que nous faisons. Hein. Des fois, je pense, là, je serais Dieu, là, écoute, Ronald, 4%, là, ou prends quelques vacances. Ou... Mais Dieu est patient et Dieu nous aide à construire cette Jérusalem céleste, nous, le peuple de Dieu, côté à côté, les uns avec les autres. Et c'est bon de travailler les uns avec les autres, unis dans les services de l'Église. Et on voit, comme dans ces cas, et dans l'Église, ici, même l'Église locale, il y a plusieurs qui ont un métier. Richard parlait de son métier, il était ingénieur avant. Et des fois, il doit utiliser ce qu'il a appris dans le temps pour le mettre à service de l'Église, des frères et sœurs. Moi, j'étais pâtissier, je n'ai pas encore fait un gâteau pour l'Église, peut-être bientôt. J'ai fait l'informatique et des fois, je suis, comme tantôt, j'étais un peu essoufflé. Je suis allé aider en bas parce qu'il y avait des problèmes avec l'ordinateur. Et donc, on met au service de l'Église de nos frères et sœurs ce que nous avons appris. Et Dieu utilise tout ça là, pour nous bâtir, pour bâtir son Église, pour nous édifier les uns les autres. Et ça passe vraiment, frères et sœurs, par le service. Malheureusement, le service, on ne peut pas faire des télétravails chrétiens. On ne peut pas le faire. Oui, c'est vrai. On utilise YouTube pour diffuser mes frères et sœurs qui sont à la maison. Mais comme je l'ai dit il y a quelques semaines, mettons-nous en mode, plus en mode Zoom, plus en mode en présentiel. Donc venons, si, et je sais qu'on fait une semaine sur deux, mais si c'est votre dimanche, venez frères et sœurs, venez servir aussi pour ceux qui n'ont pas encore fait. On s'est trop habitué peut-être à la télé. Et on fait des télétravail. Des fois, les gens confondent ça. Les ados font beaucoup de télétravail. Ils sont toujours devant la télé. Et c'est pas eux qui travaillent, c'est la télé qui travaille. Mais ce qu'on appelle le télétravail. Mais frères et sœurs, profitons pour servir, venir à l'église le jour que. Si vous avez oublié votre groupe, appelez à l'église. Nous avons besoin maintenant des gens qui nous aident, ou comme l'a dit mon frère, il y a beaucoup de travail dans le comptoir alimentaire, et pour les ménages, pour toutes sortes de travaux. Et bientôt, on veut, comme Richard l'a dit tantôt, on veut faire une classe à 9h30, un enseignement. Donc, nous avons besoin des gens pour garder les enfants, pour organiser tout ça, des placeurs. Et donc, c'est vraiment un appel au service. Et vous allez voir, je sais qu'on s'est refroidi un peu, et peut-être à cause de cette pandémie, mais déjà, je ne pense pas qu'on va reculer du volant. On va plutôt peut-être avancer. À un moment donné, ces chaises-là, on va être collées. On n'aura plus de deux groupes. Mais en attendant, je vous encourage à être en mode présentiel. Amen. Donc, Dieu bâtit par le travail son Église. Et nous lisons, pour conclure, dans Apocalypse 21, parce que ça me fait penser, les murailles, il y a quand même une signification. Et dans le chapitre, presque le dernier chapitre de la Bible, le chapitre 21, 2 à 3 et 11 et 12 aussi, c'est-à-dire versets 11 et 12, je vais un peu sauter, mais il nous parle de cette nouvelle Jérusalem. Et il nous parle aussi des murailles que nous allons être témoins. Je ne sais pas de quelle façon, comment ça va être la ville, mais nous sommes la nouvelle Jérusalem. Et je vis descendre du ciel, d'après Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ». Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. C'est Jérusalem. Et plus loin, on lit dans le verset 11. Il avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Il avait une grande et haute muraille. Il avait 12 portes et sur les portes, 12 anges. Et nous lisons après, encore, il y a des noms qui sont gravés sur cette porte-là. Nous travaillons pour cette nouvelle Jérusalem. Notre place, notre cité est dans les cieux, mais nous devrons travailler ici pour le bénéfice de l'Évangile, pour que d'autres gens puissent être sauvés et puissent avoir cette espérance qu'un jour on sera dans cette nouvelle cité. Donc, le message de ce matin, c'est simple. Levons-nous et bâtissons. Travaillons à notre salut, comme dit l'apôtre Paul, avec crainte et tremblement. Amen.
Merci, pasteur Ronald.